Deuxième jour, nuit, où l'on pénètre enfin dans le labyrinthe. L'on a d'étranges visions, et comme il arrive dans les labyrinthes, on s'y perd.
Nous remontâmes au scriptorium, cette fois par l'escalier oriental, qui donnait aussi accès à l'étage interdit, la lampe haute devant nous. Moi, je songeais aux paroles d'Alinardo sur le labyrinthe, et je m'attendais à des choses épouvantables. Je fus surpris, quand nous émergeâmes dans le lieu où nous n'aurions pas dû entrer, de me trouver dans une salle à sept côtés, pas très vaste, dénuée de fenêtres, où régnait, comme du reste dans tout l'étage, une forte odeur de renfermé et de moisissure. Rien de terrifiant. La salle, dis-je, avait sept parois, mais sur quatre d'entre elles seulement s'ouvrait, entre deux colonnettes encastrées dans le mur, un passage assez large surmonté d'un arc en plein cintre. Le long des parois aveugles s'adossaient d'énormes armoires, chargées de livres disposés avec régularité. Les armoires portaient une étiquette numérotée, ainsi que chacune de leurs étagères. D'évidence, les mêmes numéros que nous avions vus dans le catalogue. Au milieu de la pièce, une table, elle aussi remplie de livres. Sur tous les volumes, un voile assez léger de poussière, signe que les livres étaient nettoyés avec une certaine fréquence. Par terre non plus, il ne traînait aucune saleté. Au-dessus de l'arc d'une des portes, un cartouche, peint à même le mur, qui portait les mots « Apocalypsis Jesus Christi ». Il ne paraissait pas défraîchi, même si les caractères étaient anciens. Nous nous aperçûmes après, dans les autres pièces aussi, que ces cartouches étaient en vérité gravées dans la pierre, et plutôt profondément, et puis les cavités avaient été emplies de peinture, comme on fait pour peindre à fresque les églises. Nous franchîmes l'un des passages. Nous nous trouvâmes dans une autre pièce, où s'ouvrait une fenêtre qui, au lieu de panneaux de verre, portait des plaques d'albâtre, avec deux parois pleines et un arc du même type que celui par où nous venions de passer, qui desservait une autre pièce, laquelle avait deux parois pleines, elle aussi, avec une fenêtre, et une autre porte qui s'ouvrait devant nous. Dans les deux pièces, deux cartouches semblables par leur forme au premier que nous avions vu, mais avec d'autres mots. Le cartouche de la première disait « Super tronos vigenti quatuor », celui de la seconde « Nomen illi mors ». Pour le reste, même si les deux pièces étaient plus petites que celles par où nous étions entrés dans la bibliothèque, de fait celle-là était heptagonale et ces deux dernières rectangulaires, l'ameublement était le même, armoire avec des livres et table centrale. Nous accédâmes à la troisième pièce. Elle était vide de livres et sans cartouches. Sous la fenêtre, un autel de pierre. Il y avait trois portes, une par où nous étions entrés, l'autre qui donnait sur la pièce heptagonale déjà visitée, une troisième qui nous introduisit dans une nouvelle pièce, à peu près pareille aux autres, sauf pour le cartouche qui disait « Obscuratus est sol et aer ». D'ici, on passait à une nouvelle pièce, dont le cartouche disait « Facta est grando et ignis ». Elle était sans porte. Autrement dit, arrivé à cette pièce, on ne pouvait plus aller de l'avant et il fallait revenir sur ses pas. « Raisonnons, » dit Guillaume. Cinq pièces quadrangulaires ou vaguement trapézoïdales, avec une fenêtre chacune qui tourne autour d'une pièce heptagonale sans fenêtre, desservie par l'escalier. Cela me semble élémentaire, nous sommes dans la tour orientale. Chaque tour présente de l'extérieur cinq fenêtres et cinq côtés. Le compte y est. La pièce vide est précisément celle qui regarde à l'orient, dans la même direction que le cœur de l'église. La lumière du soleil à l'aube éclaire l'autel, ce qui me semble juste et sain. L'unique idée astucieuse me semble celle des plaques d'albâtre. Le jour, elle filtre une belle lumière, la nuit, elle ne laisse transparaître pas même les rayons de la lune. Ce n'est, après tout, pas un grand labyrinthe. Voyons à présent où mènent les deux autres portes de la pièce heptagonale. Je crois que nous nous orienterons aisément. Mon maître se trompait. Et les constructeurs de la bibliothèque avaient été plus habiles que nous ne croyons. Je n'arrive pas bien à m'expliquer ce qui se passa, mais, comme nous quittions la tour, l'ordre des pièces se fit plus confus. Certaines avaient deux, d'autres trois portes. Toutes avaient une fenêtre, même celle où nous nous engagions en partant d'une pièce avec fenêtre et en pensant aller vers l'intérieur de l'édifice. Chacune avait toujours le même type d'armoire et de table, les volumes entassés en bon ordre paraissaient tous pareils et ne nous aidaient certes pas à reconnaître le lieu d'un coup d'œil. Nous tentâmes de nous orienter avec les cartouches. Une fois, nous avions traversé une pièce où était écrit « In diebus illis ». Et après plusieurs tours, il nous semblait y être revenu. Mais nous nous souvenions que la porte devant la fenêtre desservait une pièce où était écrit « Primogenitus mortuorum », tandis qu'à présent, nous en trouvions une autre qui disait de nouveau « Apocalypsis Jesus Christi ». Et ça n'était pas la salle heptagonale d'où nous étions partis. Ce fait nous convainquit que parfois les cartouches se répétaient égaux dans des pièces différentes. Nous trouvâmes deux pièces avec « Cecidit de cello stella magna ». D'où provenaient les phrases des cartouches, cela ne laissait aucun doute. Il s'agissait de versets de l'Apocalypse de Jean. En revanche, ni la raison de leur exposition sur les murs, ni la logique de leur disposition n'étaient le moins du monde claires. Et pour accroître notre confusion, nous relevâmes que certains cartouches peu nombreux étaient de couleur rouge au lieu d'être en noir. À un moment donné, nous nous retrouvâmes dans la salle heptagonale de départ, reconnaissable car l'escalier y trouvait son orifice. Et nous reprîmes notre exploration vers notre droite, en cherchant d'aller droit de pièce en pièce. Nous passâmes par trois pièces, et puis nous trouvâmes devant une paroi fermée. L'unique passage desservait une nouvelle pièce, qui n'avait qu'une autre porte, au sortir de laquelle nous parcourûmes quatre autres pièces, et nous trouvâmes à nouveau devant un mur orbe.